Par exemple, à un moment, on a assisté à une scène d'arrestation d'un militant qui a essayé de s'échapper. Il a entraîné la police dans sa chute. Et à un moment, il dit « j'arrive pas à respirer ». Et tout de suite, le policier s'est retiré en disant « ça va mieux, là, t'es mieux comme ça ».
La bonne pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes latitude.
Léna, Victor, vous étiez à la ZAD de Lützerath, en Allemagne, pour votre reportage Latitude. Vous étiez en pleine actualité, justement, parce que c'était l'évacuation de la ZAD. Pour commencer, Victor, est-ce que tu pourrais nous raconter comment les activistes se sont organisés sur place ?
Alors déjà, il faut s'imaginer un peu le village. Il est situé vraiment en rase campagne en Allemagne. Et il y a à peu près 3 km autour de la ZAD, en fait, les routes sont bloquées. On ne pouvait pas y accéder directement. Alors nous, le premier jour qu'on est arrivé, on s'est garé dans le village d'à côté. Et on commence à y aller à pied, on a un peu galéré à trouver une place dans le village à côté. Et il y a une petite dame qui nous prend en autostop, en fait, parce qu'il y avait une grosse manifestation organisée là-bas, du coup, sur la ZAD à Lützerath. Et elle, c'était sa manière de participer, en fait, à la manifestation, parce que son mari était trop âgé pour se rendre sur place. Donc pour elle, c'était un peu une manière comme ça de participer. Donc elle nous a conduit jusqu'aux barrières, en fait, vraiment à l'entrée, l'entrée de la ZAD, il y a encore 3 km à marcher. Donc après, on a marché 3 km dans la boue, très boueux, jusqu'à arriver à la ZAD. Et en fait, une fois arrivé sur la ZAD, c'est un espace qui est vraiment pas très grand, en fait, ça doit faire 1 km carré. Et il y a quelques maisons, et puis c'est surtout, il y a quelques arbres, et en haut des arbres, en fait, les activistes, ils ont construit des cabanes dans lesquelles ils vivaient, en fait. Et entre les cabanes, ils avaient aussi dressé des poteaux en plein milieu d'une prairie et tout ça. Et en fait, ils avaient tout relié par des tyroliennes, des systèmes de ponts de singe, en fait. Et c'était un moyen pour eux, comme ça, de circuler à travers chaque arbre dans la ZAD. C'était assez impressionnant, comme ça, on a vraiment de voir ça.
Ouais, comme ça, en cas d'expulsion, ils peuvent se déplacer. Déjà, c'est difficile de déloger des activistes dans des arbres. Mais en plus, si jamais la police arrive à un arbre, hop, ils se déplacent. Et il faut s'imaginer la structure de la ZAD comme un village avec une prairie, des tentes, des cabanes dans les arbres. Et à 100 mètres, un à-pic sur une mine immense de la taille de Lyon, à ciel ouvert. Et donc ça fait une atmosphère vraiment étrange, avec au loin les machines de la mine qui travaillent alors que les activistes sont là. C'est vraiment particulier.
Ouais, en plus, on avait la machine quand on est arrivé qui était vraiment quasiment à côté du village, donc on a pu s'approcher, on est vraiment arrivé à 20 mètres de la machine. Quoi. Donc
s'il y a des maisons comme ça dans les arbres, ça veut dire que ça a pris du temps pour s'installer. La ZAD, elle est là-bas depuis combien de temps ?
En fait, c'est une ZAD très organisée, c'est un modèle d'organisation pour les autres lieux de lutte dans le monde. Moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis l'actualité de cette ZAD, depuis le début en fait. C'est une ZAD qui est née pour lutter contre l'expansion de la mine de charbon à ciel ouvert voisine, Garzweiler 2. Et les activistes occupent le village pour ne pas que le charbon qui est sous le village soit exploité et pour respecter les accords de Paris qui souhaitent limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Il y a des études indépendantes menées par des organismes de recherche scientifique qui disent qu'on ne peut pas respecter ces accords si on exploite ce charbon. Charbon qui doit être exploité. Parce que pénurie de gaz russe en Allemagne, l'Allemagne est très dépendante de cette énergie-là. Donc c'est tout l'enjeu énergétique de cette lutte-là.
Et là, depuis 2 ans, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives pour déloger les activistes ? Ou est-ce que là, depuis 2 ans, c'est la première fois qu'on a une grosse action comme ça ?
Non, c'est la première fois qu'il y a une grosse action comme ça. En fait, c'est en octobre 2022 qu'il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement de coalition et l'énergéticien qui s'appelle RWE qui exploite la mine. Et donc RWE est désormais complètement propriétaire des terres. Il y a eu une expropriation des habitants de Lützerath sur le long terme. Et en octobre 2022, autorisation d'exploiter le charbon. Et c'est là qu'il y a eu une planification de l'expulsion qui a été annoncée en fin d'année. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ce reportage. Enfin, moi, je suivais l'actualité et j'ai vu que le ministre de l'Intérieur de Rhénanie, la région où se trouve Lützerath, a annoncé une expulsion musclée. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais d'y aller et de faire un
Donc vous y étiez pendant cette évacuation. Et tout particulièrement, vous êtes retrouvés à un moment au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça, quand on voit sur les événements comme ça, des fois on se retrouve au bon endroit, un peu le coup de bol. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu et les photos peut-être que tu as prises, toi, Léna ?
Bon endroit, bon moment, exactement, parce que pour 3 semaines de magazine, c'est vraiment un coup de chance de se retrouver là. J'ai pris des photos du dimanche au mercredi, donc de la grosse manifestation avant l'expulsion, au tout début de l'expulsion. Et donc j'ai pu assister à l'évacuation des militants, enfin avec Victor d'ailleurs qui a pris de la vidéo, l'évacuation des militants par les forces de police. Et j'étais étonnée d'ailleurs du comportement de la police par rapport à la France, qui, en tout cas au début de l'expulsion, parce que après ça a plus chauffé les jours suivants, mais on était partis, était beaucoup plus réglo. Par exemple, à un moment, on assistait à une scène d'arrestation d'un militant qui s'est fait, qui a essayé de s'échapper. Il a entraîné la police dans sa chute. Et à un moment, il dit « j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à respirer ». Enfin, c'est Victor qui m'a dit ça, puisque je ne comprends pas l'allemand. tout de suite, le policier s'est retiré en disant « ça va mieux, là, t'es mieux comme ça ».
Donc il y avait un dialogue entre police et activiste.
Oui, puis il faut même savoir que vis-à-vis de nous, en tant que jeunes journalistes, ils ont été... je sais pas si on peut dire ça, mais très bien accueillis en soi, c'est eux qui on a eu facilement des accréditations en fait pour aller ensuite au sein de la ZAD. En fait, quand on est arrivé le premier jour, on savait pas vraiment trop comment ça allait se passer sur place, et en fait on s'est rendu compte après le premier jour il y avait des accréditations qui était possible d'être s'accréditer auprès de la police, et le lendemain on a été s'accrédité auprès de la police. Ils avaient tout organisé, ils avaient un parking sur lequel les journalistes pourraient se garer, et ensuite ils organisaient des navettes depuis ce parking pour se rendre jusqu'à Lützerath.
Donc c'est la police qui vous a emmené de l'endroit où vous arrivez au cœur de la ZAD.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait le dimanche on s'est rendu par nos propres moyens, et puis après les autres jours on a été au parking, et c'est directement la police qui nous emmenait en fait sur place. Et pour avoir l'accréditation, ça a été rien de plus simple, ça nous a pris 2 minutes. Et ensuite, à chaque fois, pour prendre la navette, aucun souci, même pour prendre des images, ils nous ont jamais posé problème, en tout cas sur le terrain.
Ouais, de 8h à 17h, une navette passait sa journée à faire parking Lützerath pour amener des journalistes et les ramener. Et ce qui était rigolo, c'était de constater que, rigolo en comparaison avec la France où les relations entre presse et police sont pas du tout les mêmes, sur Twitter, des gens râlaient en disant « mais à 17h, on peut plus aller, mais c'est honteux que ce service se prolonge pas plus longtemps ».
Donc le problème, c'était qu'il n'y avait pas assez de navettes alors qu'il y en avait déjà
toute la journée. Oui, c'est ça. C'est pas démocratique, puisque les Allemands sont très attachés à la loi et à la démocratie. Gros sujet, d'ailleurs, dans le reportage. Et ils disaient, c'est pas normal qu'on puisse pas y être tout le temps. Alors que nous, on était déjà, mais oh, c'est génial. C'est la police qui nous emmène, qui nous fournit des casques, parce qu'on est des petits débutants journalistes. Et là, on voit toute la presse allemande armée jusqu'aux dents, avec des grosses bottes en caoutchouc et des casques le jour de l'expulsion. On se dit, mais... Oh, on n'est pas du tout équipé, quoi.
Vous êtes arrivé habillé comme tous les jours.
Exactement.
On s'est dit, on va découvrir le terrain, on verra sur place.
Ah ouais, j'ai toujours pas réussi à enlever des taches de boue sur certains vêtements. Hein. La gadoue. Et au final, on arrive sur place par la voiture de police et on nous fournit des casques de chantier, des vestes fluorescentes. On a toujours notre petite accréditation autour du cou sous un petit plastique. Pareil, la police, on était dans leurs pattes, les journalistes, mais tout le temps. Et pas un mot plus haut que l'autre. Malgré ça, après c'était le début, donc je sais pas comment ça a évolué par la suite. En suivant l'actualité, on a pu constater que ça avait pu être plus musclé, il y a eu des échanges de pavés, de gaz lacrymo, etc. Mais un policier qui veut passer alors qu'il y a 14 journalistes qui le gênent, il va dire « excusez-moi, j'ai besoin de passer ».
D'accord.
Ça s'arrête là.
Il y a une discussion, est-ce que vous avez parlé avec la police, est-ce qu'entre manifestants, le dialogue est
alors,
comment là-bas?
Nous on a parlé à la police, il y avait le jour de l'expulsion, ils avaient ramené les syndicats de police en fait sur place, et qui étaient là en fait vraiment uniquement pour parler aux journalistes. Donc on a eu, j'étais lui demander comment ça se passe aujourd'hui, comment vous voyez-vous l'évacuation, il a répondu tout à fait détendu aux questions, et puis encore plus surprenant, quelques minutes plus tard, donc on est à quelques mètres de là, sur la barricade, il y a un activiste qui est accroché sur sa barricade pour éviter que la police s'interpelle. En face de lui, il y a un policier qui se regarde, mais ils se regardent vraiment en chien de faïence, les deux. Et il commence à entamer une discussion sur l'état de droit. Et c'était vraiment, je me suis dit, c'est complètement lunaire. En France, ça aurait été impossible. Ouais. Et là, ils débattaient vraiment. Et il y avait vraiment deux points de vue irréconciliables, mais ils débattaient vraiment sur le sujet. C'était vraiment...
Ils s'écoutaient, ouais, franchement. Et ça, c'était très étonnant. Le dimanche, il y avait une ambiance de liesse. Il y avait des milliers de personnes venues manifester. Et le mercredi, nous, on arrive en se disant, mais ils ont des casques pour la presse et tout, ça va être la guerre. Et c'était une ambiance de fin du monde. Il y avait... le calme, des policiers qui encerclent des manifestants, et la seule chose qui coupait le silence de temps en temps, c'était des slogans, soit de soutien entre manifestants, quand il y en a un qui se fait arrêter, ils disent « tu n'es pas seul
ouais. »,
ou « stop au charbon, luttera de vie », et à part ça, des bruits de marteau-piqueur pour défoncer les barricades, et rien d'autre, quoi. C'était hyper étrange, quand on est habitué, par exemple, aux manifestations françaises, ou ce genre de choses, où on sort, moi personnellement, même quand je couvre en tant que photographe des manifestations, j'ai toujours cette petite crainte de est-ce que je vais perdre une main, est-ce que je vais perdre un œil. Et là, j'étais vraiment sereine en l'occurrence.
Ouais, vous n'êtes pas senti gêné dans votre travail de journaliste pour documenter l'événement. Enfin, ce qui est assez fou de se dire que la police vous a amené sur le lieu et ensuite avait préparé des gens juste pour vous répondre. Oui. Juste pour vous.
Il y avait une équipe communication de la police, c'est ça. Donc, les policiers qui travaillaient, si on jamais on leur parlait, ils répondaient aux questions. On a vu une journaliste de l'AFP discuter en français avec un officier de police lambda qui lui expliquait ce qui se passait. C'était vraiment étonnant, oui.
Oui, puis ils avaient même prévu un parking directement à Lützerath, en fait, quand ils nous déposaient avec la navette. Le jour d'évacuation, ils avaient prévu un parking pour les grosses chaînes de télé allemandes pour qu'ils puissent faire leur duplex sur place.
Ah ouais, donc ils étaient prêts, les journalistes étaient attendus et accueillis.
Oui, c'est ça, je pense.
Venez documenter l'événement.
C'est ça, exactement.
Et là, vous êtes rentré il y a quelques jours déjà. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe? Est-ce qu'on est encore... où est-ce qu'on en est aujourd'hui là?
Alors, la ZAD a fini d'être expulsée hier, après 5 jours d'expulsion. Quand je dis fini d'être expulsée, c'est que tous les militants ont été sortis du village. Il y en avait qui avaient même creusé des tunnels sous le village. Parce que s'il y avait des tunnels, c'était dangereux pour la police d'accéder au village. Il faut savoir qu'il y a une grosse culture de la lutte, comme à Lützerath en Allemagne. Il y a quelques années, à Ambar, il y avait eu un mort pendant l'expulsion de la ZAD. C'est exactement la même histoire, l'extension d'une mine, etc. Et ce mort-là avait fait que toute l'opération de police était annulée. Donc, de base, la police a très peur qu'il y ait des morts, mais particulièrement Hervé aussi a très peur qu'il y ait des morts parce que si jamais il y a un truc qui foire, c'est fini pour tout le monde. Donc ils ont creusé des tunnels, ils ont risqué leur vie en fait pour ça. Ils ont fini par être évacués et là, en opération revanche, ils se mettent à occuper la mine. Il y en a qui sont montés dans l'excavatrice qui est la grande machine dont on parlait tout à l'heure. C'est une roue de 20 mètres de diamètre, c'est monstrueux. Ils sont grimpés là-dedans pour empêcher la machine de fonctionner. On ne sait pas ce que ça va donner. Pour le moment, RVE a bouclé le périmètre. Il n'y a plus personne dans le village, mais il y avait 35 000 personnes qui sont venues manifester en soutien à la ZAD. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en parler.
Et pour mieux comprendre, pour aller encore plus loin dans le détail, votre article est disponible. Donc c'est un reportage dans le magazine Latitude. Je sais qu'il y a déjà un titre. Est-ce qu'on peut peut-être donner le titre?
Le titre, c'est Extraction Rébellion.
Voilà, donc l'article Extraction Rébellion à lire dans le magazine Latitude. Et puis, on rappelle que Latitude est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, je vais y arriver, et sur le site internet. Léna et Victor, merci d'être passés.
Merci.
Salut.
Tchuss.
La Bonne Pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes Latitude.